la première fois que nous avons célébré la mémoire des morts de Soweto, j'étais donc dans mon église, on avait fait venir des cercueils dans l'église pour matérialiser ceux pour lesquels nous prions. Quant à la deuxième année, nous étions en état d'urgence. J'ai reçu 3 fois la police ce jour-là. Je me suis même arrêté dans l'après-midi dans un Soweto qui était totalement isolé du monde. Les autorités avaient coupé le téléphone. Soweto en 1976, vous pensez qu'en 83, 84, c'était encore très, très vivant et très émouvant. Les gens pleuraient. Et puis, c'était toujours un temps très pénible. La première année, je n'habitais même pas Soweto. Il y avait des barrages policiers tout autour de Soweto. À partir du début du mois de juin, le gouvernement lui-même était sur les dents dans l'attente de l'émotion qui allait reprendre encore dans la ville de Soweto. Et c'est vrai que ça a marqué, vous n'imaginez pas, ça a été un tournant parmi les plus grands tournants de l'histoire récente d'Afrique.
Comment l'Église et vous-même avez participé à la lutte contre l'apartheid?
De multiples manières. D'abord en permettant aux gens de s'exprimer, de revivre ces événements dans nos églises. Ensuite, très vite, quand je suis arrivé, nous avons vécu une série d'états d'urgence avec des gens jetés en prison sans aucune protection, sans inculpation, sans avocat. Nous n'avons jamais cessé à la fois de rassembler les familles de ces prisonniers, d'intervenir auprès des autorités pour que cet emprisonnement cesse. Et moi-même, je suis allé rencontrer des prisonniers en catimini, soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux où on s'est donné rendez-vous. Je me souviens d'un pasteur luthérien qui avait demandé à avoir un psychiatre, mais en fait, c'était pour nous voir. Il voyait le psychiatre d'une minute, et nous, on passait une heure et demie avec lui dans la salle d'attente de l'hôpital. Donc, après, nous étions présents dans les innombrables enterrements qui ont suivi, les descentes de police, de l'armée, les fusillades. Dites-vous simplement qu'en 10 ans, la moitié des gens que j'ai enterrés avaient été tués. Donc je ne souhaite à aucun prêtre, sur 280 enterrements, d'en avoir 140 de personnes qui ont été tuées par la police ou par l'armée dans des massacres qui liés à la situation politique. Ensuite, quand l'état d'urgence est arrivé en 86, eh bien les seules autorités, les institutions qui n'étaient pas interdites, c'était les syndicats et les églises. Et donc pendant des années, moi j'ai ouvert mon église à des rencontres soi-disant de prière, mais en fait, où on priait un peu, bien sûr, mais on faisait des réunions pour prévenir les gens, pour rassembler les familles, pour soutenir les familles des prisonniers. Nous avons vu une présence quotidienne et un certain nombre de délégations pour lesquelles on nous a demandé d'aller voir les autorités municipales, les autorités du ministère de l'Éducation quand il s'agissait des écoles ou des lycées, les autorités de la police quand il s'agissait d'internement, etc. Donc, c'était quotidien, quotidien. Toutes les églises n'étaient pas engagées, j'allais dire, avec la même force. Et dans toutes les églises, il y avait des prêtres, des pasteurs, des laïcs qui travaillaient ensemble. Et donc, il y avait un comité œcuménique, en réalité, avec lequel nous avons été sans cesse sollicités entre 84-85 et le moment où j'ai quitté.
Et justement, au quotidien, de quoi étiez-vous témoin qui renvoyait justement à cette situation de l'apartheid?
L'éducation a été pratiquement mise par terre, parce que les jeunes n'en pouvaient plus. Que vous imaginez qu'en 1986, le gouvernement a voulu que 2 soldats se trouvent dans chaque salle de classe, soi-disant pour garder les élèves, mais en fait, ils ont vidé les salles de classe. Nous avons vécu des années où pendant 6 mois, il n'y avait plus de classe. Les jeunes passaient dans la classe supérieure, sans examen, donc sans avoir travaillé, et arrivait au bac totalement incompétent. Le lycée à côté de chez moi, il y avait 5% de réussite au bac. Donc, chaque année, il fallait une classe de plus pour les redoublants s'ils acceptaient de redoubler. Donc voilà, nous étions constamment dans le domaine-là, d'abord témoins de la dureté de l'apartheid. À partir du moment où il a libéré Mandela jusqu'aux élections de 1994, d'un côté, il y avait des négociations, et de l'autre côté, l'administration, la police et l'armée faisaient tout pour boycotter, pour empêcher que les négociations n'arrivent à une transformation de la société et au démantèlement de l'apartheid. Donc, il y avait une espèce de double langage que nous vivions au quotidien avec une violence continuelle. Et donc, comme je l'ai dit, des enterrements, des gens tués ici et là pratiquement toutes les semaines.
Et alors, comment avez-vous vécu l'accession de Nelson Mandela au pouvoir?
Ah ben, écoutez, comme un miracle, et sa libération en 90 par un acte très courageux du président de Klerk, qui était d'autoriser tous les partis politiques, de libérer les prisonniers politiques, de faire revenir les exilés. Donc ça, c'était un acte extrêmement courageux, mais qui malheureusement, dans son esprit, était fait surtout pour protéger les intérêts des Blancs. Et par conséquent, il y avait une espèce de double langage, de double politique, une ouverte de négociation et l'autre fermée et clandestine, pour faire en sorte que s'il y en arrive à des élections, pratiquement, il pourrait garder le pouvoir encore. Donc voilà, ça n'a pas marché, grâce à Dieu, mais ça a été des années extrêmement tendues. Et une fois que Mandela a été élu président, vous imaginez, c'est une fête comme je n'en vivrai pas 36 dans ma vie comme celle-là. J'étais moi-même d'ailleurs président du bureau de vote dans mon église, qui était un bureau de vote, le 27 avril 1994. Ce sont des émotions qu'on traduit mal avec des mots et qu'on ne revivra pas. Bon.
Est-ce que après l'accession de Nelson Mandela au pouvoir, les défis de l'Église en Afrique du Sud ont changé?
Les défis, oui. Puis j'ose dire, l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid comme quelqu'un qui sort de la salle d'opération. Il est guéri, mais il ne peut pas marcher. Puis on ne sort pas d'un système oppresseur, oppressif, dictatorial et comme cela, libre et responsable. Ce que les maîtres ont appris aux esclaves n'est pas une préparation à la liberté et à la responsabilité. Par conséquent, le défi, c'est un défi maintenant d'éducation, de remise au travail, d'inversement dans la façon de regarder les choses, de regarder la loi, puisque les lois auparavant étaient cliniques, étaient injustes, donc on ne pouvait pas respecter ces lois-là, mais maintenant, il fallait apprendre à respecter les lois à des gens qui ne les avaient jamais respectées avant, et pour cause. La police était un instrument d'oppression, de surveillance, d'espionnage. Il fallait maintenant adhérer, c'est-à-dire considérer le travail policier comme un travail de protection. C'était ça, ni pour les policiers, ni pour les gens. C'est pas encore fait, cette transformation-là, cette rééducation, si je veux dire, pour laver le cerveau de toute l'aliénation que l'apartheid avait inscrit, c'est pas quelque chose de facile, et c'est quelque chose auquel les églises se devaient et se doivent encore de participer. Donc les défis sont très différents, et ce sont les défis de Moïse après le passage de la mer Rouge. Avant la mer Rouge, il négocie avec le pharaon pour faire sortir son peuple. Et une fois la mer Rouge traversée, il négocie avec le peuple pour que celui-ci apprenne à se conduire comme un peuple libre, responsable, respectueux les uns des autres, etc., etc. Qui retrousse ses manches parce que la vie n'est pas plus facile dans le désert qu'elle l'était en Égypte. C'est tous ces défis-là qui se posent aujourd'hui au peuple sud-africain, au gouvernement sud-africain et aussi aux églises qui accompagnent, qui doivent participer à cet effort d'éducation.